Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 540 du podcast John Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview, déjà la 11e semaine de NFL qui se prépare juste devant nous. Victor Roulier est avec moi pour en parler. Bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Comment ça va Victor?
Ben ça va, j'ai vu que la team été a envahi le podcast, donc il fallait un représentant des saisons froides, donc je fais mon retour.
T'es team glagla, chauffage cher et
team automne-hiver, moi.
Ah ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est ça. Il y a les factures d'électricité de chauffage qui m'ont fait changer d'avis aussi hier. Je pense que ça a permis de... Ça a joué. Ah ouais, toi, t'es team hiver. Très bien. Au-delà de l'hiver, on va parler des flops du début de saison aujourd'hui, Victor. Il y en a eu. On a parlé des belles surprises il y a quelques semaines. Il y a eu des très, très beaux flops aussi, des flops de qualité. Les Cowboys vont être testés dans l'affiche de la semaine, le hypomètre. On va parler aussi un petit peu de Mexico, parce que c'est une semaine mexicaine hein, sur TD Actu, puisqu'on est à Mexico. Alors, pas nous là qui vous parlons, mais Marc Orfila et Kevin Renaudet sont nos envoyés spéciaux à Mexico cette semaine. On aura notamment Marc dans le fauteuil dimanche, je vous le dis déjà. On va donc parler des flops du début de saison juste après ce jingle.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les Giants, les Jets ou les Seahawks étaient nos bonnes surprises du début de saison. Il y a des équipes pour lesquelles les choses se sont beaucoup moins bien passées cette saison, Victor. Nous en avons choisi chacun une. Quelle est pour toi la plus grande déception du début de la saison NFL après 10 semaines en 2022?
Bah écoute, pour moi, ce sont les Green Bay Packers. Ça jouait entre deux équipes, mais t'as pris l'autre. Donc on est bien. Écoute, il y a un moment, cette prolongation de Rodgers à 50 millions par an qui empêche de renforcer l'ensemble de l'effectif m'avait déjà un peu interpellé. C'est-à-dire que tu draftes Jordan Love au premier tour, tu trade up même pour le drafter il y a 2 ans au premier tour, et finalement tu t'obstines encore et toujours avec Rodgers. Bon, double MVP en titre, tu te dis, c'est vrai que c'est difficile de tourner la page, il est toujours au sommet. Sauf que cette année, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'espérait, pour plusieurs raisons. Le premier responsable pour moi, c'est LaFleur, qui est complètement perdu dans son play calling, qui s'adapte absolument pas au départ d'Adams, qui sous-utilise un jeu de course qui est pourtant performant, qui n'arrive pas à trouver une connexion avec ses leaders de vestiaire. Enfin, on est sur un entraîneur bon, qui, malgré tout, a gagné 39 matchs en 3 ans, hein, donc superbe, mais qui, pour la première fois, s'est retrouvé face à un mur et il réussit pas trop à le grimper. S'ajoute à ça, évidemment, un Rodgers qui n'a pas envie, ou en tout cas qui la plupart des semaines n'avait pas envie. Et ça, c'est assez rare parce que Rodgers, on peut ne pas aimer le personnage, on peut trouver qu'il râle tout le temps, et c'est vrai qu'il râle tout le temps, mais sur le terrain, il avait quand même toujours répondu présent. Il s'était jamais vraiment effondré, il n'a jamais fait une mauvaise saison depuis qu'il est en NFL. Et là, il y a eu quand même des matchs où c'était pénible. Tu voyais qu'il n'essayait même pas. Donc, c'est vraiment donc problème de coach, le leader qui ne répond pas, la défense qui n'est pas cata, mais qui clairement ne performe pas au niveau attendu, notamment à l'arrière de cette défense, au niveau de defensive back, enfin, je veux dire... Amos, Savage, on se demande s'ils ont envie d'être là. Même Jair Alexander, il y a des matchs, il est passé à côté. Enfin, elle n'est pas mauvaise, cette défense Packers. Mais moi, je pensais cette année que les Packers seraient une équipe défensive. J'avais dit que pour moi, c'était potentiellement une top 5 défense. Ils sont très loin de ça. Et en plus, t'as des drafts qui sont étonnantes. Un choix de Myers au centre, alors que le monde entier voulait Creed Humphrey, qui était numéro 1 centre dans tous les boards. Bon, bah, finalement, ils auraient mieux fait de prendre Humphrey. Des mecs comme Stokes, comme Watson, même si Watson a certes fait un bon match hein, la semaine dernière, mais il y a beaucoup de joueurs qui peinent à confirmer. Et il y a eu un moment trop de confiance dans des joueurs qui sont maintenant constamment blessés. Un Bakhtiari, j'adore, hein, mais ça fait 2 ans qu'il est blessé quasiment toutes les semaines. Il y a un moment, il faut juste tourner la page. Donc voilà, tout cet ensemble de choses fait que pour moi, les Packers qui devaient être un des deux favoris dans cette NFC très ouverte et quasiment out des playoffs au bout de 10 matchs.
Je crois que tu as à peu près tout dit là, je ne peux plus rien ajouter. Moi, ça me va parce que ça fait des semaines que je disais, et même dès le début de l'année, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde les voyait si haut. Je trouvais qu'il y avait pas mal de lacunes, je trouvais que ça manquait de receveurs, je trouvais que ça manquait de pas mal de choses, et j'ai toujours un peu de mal avec ces... Alors, Tom Brady étant la grande exception, mais tous les joueurs qui « Ah, je vais peut-être prendre ma retraite » et puis qui reviennent, « Ah, je vais peut-être prendre ma retraite » et puis qui reviennent, on voit que ça fait quand même rarement des bonnes choses. Aaron Rodgers a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup flirté pour avoir avec la retraite pour finir par avoir son gros chèque. Donc ça aide pas, il fait pas confiance à ses, enfin, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, il fait pas confiance à ses coéquipiers. Donc moi tu prêches un convaincu, tu vois, la défense et je la voyais pas si forte que ça pour le coup en début de saison. Donc mais ceci étant dit, ils arrivent quand même à décevoir. C'est-à-dire que moi j'en attendais pas autant que d'autres, mais évidemment je les attendais pas si bas. Je pensais pas qu'ils allaient perdre 5 matchs de suite. Ils perdent contre les Giants, les Jets, les Commanders, les Bills, les Lions. Tu t'imagines jamais ça, des Packers menés par Aaron Rodgers. C'est pas prévu. Et ceci étant dit, là, ils ont remonté un peu la tête, mais ils restent à 4-6. Derrière, ils jouent Titans, Eagles. Il y a aussi encore les Dolphins et les Vikings à leur programme. Je pense que ça fera pas playoff et ça sent la fin de quelque chose. Je sais pas si Aaron Rodgers va flirter vraiment avec la retraite cette fois ou y aller pour de bon, mais je pense que pour le coup, il va commencer à être temps. Même s'il était double MVP et que c'était pas honteux de revenir, mais les conditions étaient un petit peu étranges, playoff ou pas playoff.
Oui, je pense que, en tout cas, je sais pas si ça sera à retraite, mais il portera pas le maillot des Packers l'année prochaine.
Très bien. C'est ce qu'on disait déjà l'an dernier.
Oui, je sais.
Le grand cirque de Rodgers.
Il y a un jour où on aura raison. C'est à force de dire tous les ans, il y a un jour où on aura raison.
Bon, pour moi, la plus grosse déception de la saison, c'est les Broncos. J'ai retrouvé la preview de la saison publiée sur le site. C'est pas pour taper sur Lucas qui l'a écrite parce que j'étais largement d'accord avec lui, mais je me demandais ce qu'on se disait, tu vois, il y a encore 3-4 mois. Je te donne la conclusion de la preview, c'était au sein d'une division extrêmement relevée, les Broncos ont été testés tout au long de la saison régulière, mais avec l'arrivée de Russell Wilson, cette équipe est passée directement au rang de candidat sérieux au playoff. Est-ce que l'effectif est assez étoffé pour prétendre à la victoire finale? Pas sûr, Nathaniel Hackett a en tout cas de quoi construire autour de son franchise quarterback. Pronostic, 11 victoires, 6 défaites. Le facteur X, c'était Nathaniel Hackett dans la preview de Lucas. Encore une fois, hein, c'est pas du tout pour me moquer parce que je pensais exactement la même chose. Voilà, Hackett déçoit, Russell Wilson déçoit aussi. Il n'est plus le même, 7 touchdowns pour 5 interceptions. Ce qui est dingue, c'est qu'il est à 2,6% de touchdowns sur ses passes en proportion. Il était l'an dernier à 6,3% par exemple, donc il en chute libre au niveau du taux de touchdown par rapport à son nombre de passes. Par contre, le taux de sac, lui, il est toujours aussi élevé. Donc, tu commences à te dire en regardant ça, est-ce qu'on avait raté un truc, quoi ? Est-ce que les Seahawks
cachait bien ses failles, le mettait bien en valeur, parce que en fait, les sacs, ils étaient peut-être pour lui, en tout cas pas tous évidemment, mais il a un problème pour encaisser les sacs. Et en fait, quand il n'y a pas DK Metcalf, et encore, il n'avait pas toujours des grands receveurs à Seattle. C'est ça qui est dingue, en fait. On se demande ce qui s'est cassé chez Russell Wilson, je trouve. Et c'est triste.
Tu veux dire que c'est Carson Wentz du riche ?
C'est dur, parce qu'il a été régulier pendant 10 ans, quand même.
Oui, oui.
Enfin,
oui.
7-8 ans.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y avait une stat terrible, c'est que si les Broncos avaient marqué 18 points par match... depuis le début de la saison, il sera 8-1, c'était ça, ça avait
alors été c'est 20 points, on en a parlé avec Raphaël dans l'émission d'hier, c'est 20 points en fait, il fallait qu'il marque 20 points, et 20 points c'est pas le bout du monde, c'était la 24e, ce serait la 24e moyenne offensive en NFL aujourd'hui, donc c'est même pas leur demander d'être la première attaque. S'ils étaient la 24e attaque NFL, ils auraient un bilan de 8-1, parce que tu l'as bien dit, c'est là aussi où c'est hyper déprimant, c'est l'équipe qui autorise le moins de points par match, 16,6 points par match autorisés, mais c'est l'équipe qui en marque le moins avec 14,6 points par match, et là encore c'est dingue quoi, c'est-à-dire que en plus, alors évidemment on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas comment ça se passe et tout, mais t'imagines le coordinateur défensif, c'est Ejiro Evero il s'appelle, alors j'avoue que je ne le connaissais pas très très bien. Mais donc ce mec-là, il mène comment dire, la défense des Broncos. Ils lui ont enlevé Bradley Chubb quand même en cours de saison en disant non bah pff, écoute c'est bon c'est fini quoi tu vois. Eux ils doivent avoir une rage terrible, ils font un taf de fou. Et pendant ce temps-là, cette attaque encore une fois quoi, je trouve ça absolument déprimant, absolument triste parce que c'est toujours triste quand un mec qu'on croyait très très bon se crache comme ça si violemment. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire à part virer Hackett et oui tu donnes une deuxième chance à Wilson parce qu'il a un énorme contrat tu vois mais s'il est pas bon c'est un fail qui te met dedans pour des années quoi.
Bah clairement il faut abandonner cette saison et préparer la prochaine mais tu dis ils ont une top 3 défense et pourtant ils perdent des matchs et le pire c'est que enfin, ok, il y a des blessures et tout, ils sont pas épargnés, mais enfin, il commence la saison avec Garrett Bowles en tackle gauche, il a Courtland Sutton, il a Jerry Jeudy...
Ah oui, non mais c'était pas pour rien les ambitions, c'était parce qu'il y avait Jeudy, il y avait Sutton, il y avait Williams au sol, il y avait un truc quoi quand même, on attendait quelque chose parce qu'il y avait quelque chose, c'était censé être le quarterback qui leur manquait quand même, on se disait l'an dernier, ah ouais, Drew Lock, il fait des trucs, des fois c'est fun mais c'est irrégulier, mais quand même il y a des armes, et donc il devait être ce mec-là quoi.
Ah mais c'est ça, c'est une déception, c'est une déception totale et j'ai regardé là sur un 40 minutes le match des Titans ça, et à chaque fois tu te dis ah ils ont la balle, ils vont peut-être réussir et puis en fait c'est même pas qu'ils réussissent pas, c'est que t'as l'impression qu'ils essayent même pas, c'est d'une tristesse absolue quoi, absolue.
On avait des mentions, quelles auraient pu être les autres déceptions pour toi de la saison ? S'il n'y avait pas eu ces deux énormes fails.
Oh bah moi, je reste en NFC. C'était les Rams. Hein. Les Rams avec le star power, etc. Tenant du titre. On s'attendait à ce qu'ils fassent mieux que ça. Et là, ils vont se retrouver top 10. Et ils n'auront même pas leur premier choix de draft.
C'est qui l'a, celui-là ?
Les Lions, à cause de Stafford. Lions.
Ah, les Lions qui vont remonter. Bon, ça valait un titre. Ils savaient que la fenêtre était courte.
Ah oui,
peut-être
non,
pas
mais
si courte,
ils, moins, ouais. Je pense qu'ils refont le trade tous les jours, mais...
Ouais. Et moi, je vais en rajouter un qui aurait pu l'être si les Broncos n'avaient pas été cataclysmiques à ce point. Mais les Raiders, hein, évidemment, qu'on a un peu évoqué ces derniers jours, équipe de play-off l'an dernier quand même, qui n'a plus aucune identité de jeu, de presque de management, j'ai envie de dire, parce que Josh McDaniels a l'air aussi perdu que ses joueurs. Et on est quand même face à une année où, pour moi, il y a des coachs de première année qui pourraient sauter. Hein. McDaniels s'inquiète...
Oh ben totalement, mais d'ailleurs, il y avait eu un podcast où vous aviez fait la liste, et finalement, il y a beaucoup plus de coachs virés en première année qu'on le croit. Hein. On a toujours l'impression qu'ils ont droit à une seconde chance, et en fait, non. Je pense que Hackett, c'est déjà fait. Je pense que Hackett, il faut... Et les mecs, ils ont donné 250 millions à Wilson, il faut que ça marche, quoi. Donc, ils vont tenter autre chose. Et McDaniels, je sais pas, il a gagné combien de matchs il a gagné 6 premiers avec les Broncos depuis, il en a gagné 1 sur 30, un truc comme ça.
Bah 2 du coup là.
Ouais 2.
Enfin, c'est... Victoires.
Wow, c'est
mais les coachs les plus menacés cette année, ce sont des coachs de première année, hein, parce que tu peux plaider Lovie Smith au Texans, c'est quand même pas fabuleux non plus.
Non, sachant que Rule et Reich, qui étaient un peu deux où on se posait la question, ils sont déjà virés. Mmh. Là, il reste beaucoup de coachs de première année, ouais.
C'est vrai. On disait Dennis Allen aussi chez les Saints, qui a quand même pas insufflé grand-chose, même s'il a pas beaucoup de matos, mais il y a...
Je dirais qu'il y a quand même Cliff Kingsbury, dont j'espère qu'il dégage quand même.
J'allais dire, ouais, il y a Kingsbury, mais il y en a beaucoup. Hein, ça pourrait être une année où tu as un tiers de la ligue qui change de coach. Hein. On y viendra plus tard dans la saison, parce que je pense que c'est encore un peu court. Là, on arrive en semaine 10. Maintenant, on va aussi arriver dans cette période où les équipes vont dire on attend la fin de la saison. Mm-hmm. Mais ça commence à faire pas mal d'équipes qui pourraient changer. Donc, les déceptions de la saison, on a dit Packers et Broncos. Si on doit faire un vote, parce qu'on s'était dit on en prend une chacune. Si on doit voter, allez, c'est quoi la plus grosse pour toi, Packers ou Broncos? Ouais, Broncos aussi. Ouais. Allez, l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, elle oppose les Vikings aux Cowboys. Les Vikings sont à 8 victoires pour une défaite. Les Cowboys sont à 6 victoires pour 3 défaites. Oui, encore les Vikings, c'était déjà eu dans l'affiche de la semaine dernière. Mais on va surtout parler des Cowboys. Dans cette preview, Victor Dallas semblait plus que solide. Et puis la semaine dernière, ils se sont inclinés de manière un peu surprenante contre les Packers. En menant 28-14, ils ont perdu, ils ont souffert au sol. Ils ont eu plus de mal que d'habitude à mettre la pression sur le quarterback. Est-ce que c'est une erreur de parcours ou est-ce que tu as vu des choses inquiétantes?
C'est un bon gros choc des familles, hein, mais après, inquiétant, non. Je veux dire, dans une saison, encore plus dans celle-là, on voit que tout le monde peut battre tout le monde. Tu perds des matchs, hein, c'est inéluctable. C'était pas non plus, ils se sont pas pris 45-0 en perdant 17 ballons. Bon, ils ont perdu un match coup près où ils ont mal géré la fin de match. J'ai envie de dire que la plus grosse inquiétude, c'est Dak Prescott, hein. Parce que...
Ah, exactement, moi j'allais te dire, il arrive quand ce match référence?
C'est ça, il a été blessé, et puis là, il est, pour l'instant, il n'est pas encore... Il n'est pas cata, hein, mais non, il n'est pas encore dans le rythme où on a connu Dak Prescott. Je comprends aussi qu'un joueur qui a été blessé comme ça, je pense que sa préparation physique est faite de telle manière à ce qu'il revienne vraiment au sommet en décembre-janvier, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais c'est vrai qu'on en attend plus, sachant qu'il a une ligne qui tient plus la route qu'on aurait pu le croire. C'est pas non plus Byzance, mais ça tient la route. Il y a Dalton Schultz qui est revenu, ce qui lui donne quand même une alternative à CeeDee Lamb et à Noah Brown, parce que Michael Gallup, lui aussi, est un peu un fantôme depuis sa retour de blessure. Et t'as cette défense spectaculaire, cette défense qui provoque des pertes de balles, mais qui commence à montrer un peu des signes. Alors, je sais pas si c'est de la fatigue ou d'inconstance, mais la domination de la ligne défensive qu'on avait vue et du front seven qu'on avait vu au début de la saison est un peu moins claire ces dernières semaines.
Mmh, ouais, c'est vrai que c'était aussi un truc sur lequel... je comptais revenir. Je pense pas que Micah Parsons va rester sur son, pas dire non match, mais match où il a zéro pression face à Green Bay. Mais ça va être très intéressant de voir la réaction 1 de Micah Parsons. Un autre gros duel, parce qu'il faut venir quand même à ce match. On parle d'une affiche, Trevon Diggs contre Justin Jefferson. Il y a un gros potentiel de gros jeu des deux côtés, j'ai envie de dire.
Ah bah ça, c'est sûr. Micah Parsons, tu permettras de dire qu'il a été mis en couverture par son coach tout le match, ce qui n'aide pas à mettre des pressions sur le quarterback.
Oui, il n'a que 8 snaps, hein, où il va rusher le quarterback.
C'était assez étonnant. Diggs-Jefferson, bah, c'est évidemment un duel. Hein. Jefferson, il nous a sorti un match, le genre de match dont on se souvient, hein, le genre de réception dont on se souvient à la fin de la saison. On se dit, ça, c'était incroyable. Donc, c'est un des meilleurs receveurs de la Ligue. Trevon Diggs n'est pas un des meilleurs cornerbacks de la Ligue. Par contre, c'est un aimant à ballon. Et quand on sait la propension qu'a notre ami Kirk Cousins à parfois, on va dire, dégoupiller, même si cette saison, il faut lui reconnaître qu'il n'a dégoupillé qu'une seule fois, c'était face aux Eagles. Ce reste du temps, il est plutôt propre. Il y a toujours ce risque où il balance deux interceptions... dans ce match, après, je crois que c'est pas en prime time. Hein.
Non.
Donc,
je le dirai après, mais je crois pas.
On connaît la fameuse légende de Kirk Cousins en prime time. Mais pour moi, c'est un duel que Jefferson doit dominer. En fait, c'est pas genre un 50-50 de quel côté va tomber la pièce. C'est Jefferson, il doit lui dire, écoute, c'est moi le boss. et je t'explose la tête. Donc, la pression, pour moi, elle est sur Jefferson, parce que c'est comme ça qu'ils gagneront le match.
Deux questions pour résumer. Est-ce que les Vikings peuvent être réguliers?
Oui, bah, ils le sont. Ils ont gagné 8 matchs sur 9.
Non, je parle régulier dans le même match. C'est-à-dire pas faire touchdown, punt, touchdown. Est-ce qu'ils peuvent dominer un match complet?
Oui, moi, je pense que oui.
Très bien. Deuxième question, est-ce que Dak Prescott et cette attaque peuvent accélérer et sortir un match référence contre Minnesota?
Oui, je pense que la défense de Minnesota n'est pas aussi bonne que certains veulent le faire croire.
Très bien. Instant porte ouverte, l'important c'est la bataille des ballons perdus. Deux des meilleures équipes de la Ligue sur le différentiel des ballons perdus gagnés, plus 8 pour Minnesota, plus 6 pour Dallas. Là, c'est de la loterie, je te dis que c'est important, mais ça va être difficile de pronostiquer.
Non, mais c'est ça. Un peu comme The Eagles Cowboys, si on avait vu que ça avait tourné comme ça. Ces équipes qui perdent très peu de ballons, par définition, le moment où ils en perdent, ça leur revient en plein dans la tête. Hein. Donc, ça va être très important, oui, c'est sûr.
Pronostic.
Moi, je vais partir sur les Cowboys. Je vais partir sur les Cowboys. Honnêtement, d'ailleurs, je vois dans la rédaction, c'est 50-50. Et c'est assez fair, hein, d'ailleurs. Parce que, les Vikings sont favoris, mais c'est pas non plus... C'est à Minnesota, je crois. Mais c'est pas à gagner du tout. Moi, je sais pas. Il y a une vibe... Tu sais, les Cowboys, ils aiment bien arriver dans ces gros matchs et venir faire la perf. J'y crois. Je crois à cette équipe des Cowboys. C'est le genre de semaine qu'ils aiment bien jouer. Oui,
franchement, je suis indécis, donc je comprends aussi le 50-50. Je vais partir sur les Vikings quand même, allez, parce que ce qu'ils font en ce moment. je pense que je vais, ouais, Vikings, allez, pronostic.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong!
Yes, sir!
And we're gonna work on three! One, two, three, work!
Les pronostics, ça continue avec les scores de la semaine dernière. Petite semaine, on est retombé... Oui, Raphaël, il a pris cher avec un 5. 5 sur 14. 6 pour Victor, 6 pour Lucas, 7 pour Raoul et moi-même, 8 pour Grégory. Grégory, en tête à égalité avec moi, on est à 87, soit 58% de bons pronostics. Derrière, Raphaël à 86, Victor 85, Raoul 84. Lucas 78, toujours un petit peu dans le groupe étau. Victor, on attaque cette semaine 11, on a les pronos de tout le monde et on attaque... avec le hypomètre. Le premier match, c'est donc Vikings Cowboys, qu'on a tous les deux pronostiqué différemment. Quel est ton premier match, le match qui te chauffe le plus cette semaine?
Bah écoute, Chargers Chiefs, c'est quand même un match absolument délicieux entre Justin Herbert et Patrick Mahomes, même si Justin Herbert est diminué, ça se voit, il n'est pas aussi dominant qu'il a pu l'être. Mais écoute, c'est d'un côté, t'as une équipe de Kansas City qui doit prouver que voilà, Buffalo commence à perdre et tout, les patrons de l'AFC, c'est nous, tu vois. C'est vraiment le statement game. Et d'un autre côté, t'as une équipe des Chargers qui, en général, pose des problèmes déjà à Kansas City. Et puis là, par contre, c'est on a commencé à perdre des matchs et si on veut rester dans la course, dans cette AFC ultra compétitive et pouvoir rêver à la wild card, ben, il va falloir gagner des matchs maintenant. Donc... c'est peut-être pas la dernière chance, mais c'est une des dernières chances. Donc, moi, j'ai vraiment envie de voir est-ce que cette attaque des Chargers peut se réveiller. Il faut qu'elle reste équilibrée entre course et run, parce que au niveau de la course, entre passe et course, parce qu'au niveau de la course, il ne faut pas oublier que ça reste quelque chose d'important dans l'attaque Chargers. Il n'y a pas que Herbert. C'est évidemment un duel de division. Je veux dire, c'est un match couperet. et qui est encore plus important pour les Chargers. Ils sont dos au mur, et on parlait des coachs menacés. Attention si les Chargers loupent les playoffs une deuxième année de suite pour notre ami Staley.
Oui, je trouve que ça commence aussi à potentiellement sentir mauvais. Après, moi, je suis assez étonné des pronostics dans la rédaction, parce que je vois pas mal de Chargers. Et, enfin, je vois Greg et Raoul qui tentent les Chargers. J'avoue que les Chiefs sont statistiquement la meilleure attaque de la ligue, tu vois, donc je vois pas comment, en l'état actuel des choses, les Chargers, avec toutes les blessures, avec Justin Herbert qui est dans l'état où il a l'air d'être, c'est un défi, hein, mais pour moi, c'est Chiefs sans hésitation, quoi.
Ouais, moi aussi.
Bon. Je prends pour une fois le match du jeudi derrière, Packers-Titans, avec une défense des Titans ultra accrocheuse, vraiment une équipe à laquelle il faut rendre hommage, parce que Mike Vrabel fait un boulot de coaching complètement dingue. Il sera pas coach de l'année parce que il y a des jeunes, parce qu'il y a ceci ou cela, mais on a parlé de ça avec Raphaël lundi, la théorie du coach meneur d'homme contre la théorie du coach tacticien. Bah voilà, vous avez Mike Vrabel contre Matt LaFleur. Je vous laisse apprécier, mais il y a des chances qu'il y ait un mec qui arrive à gagner avec Ryan Tannehill, des blessés en défense et tout ça, face à Aaron Rodgers, quoi. Donc les Titans pour moi.
Oh, mais moi je vends Vrabel depuis le début de saison, je vends les Titans, etc. Je suis heureux de voir que tu finis par t'as fini par voir la lumière au bout du tunnel. Écoute,
Non, t'es dur, parce que Vrabel, ça fait, j'ai jamais tapé dessus.
Non, je suis d'accord. Non, c'était plus sur le côté non spectaculaire des Titans.
Par contre, ils sont ennuyeux, c'est terrible.
Non, mais ça on est bien d'accord. Écoute. Malgré tout, c'est à Green Bay, ça reste Rodgers. Pour moi, c'était un match 50-50. J'ai parié les Packers pour une simple et bonne raison. C'est comme pendant 20 minutes, j'ai expliqué qu'ils étaient finis. Ils vont forcément gagner pour me faire mentir, tu vois.
C'est... Justement, moi, j'essaie de me tenir. J'ai dit qu'ils étaient finis la semaine dernière, ils ont gagné, donc je ne vais pas en démordre. Je ne vais pas retourner ma veste. Je continue à dire qu'ils sont finis et ils vont perdre celui-là. L'autre, c'était un peu le chant du signe, tu vois.
J'entends. Eh bien, on va faire un petit coucou. Alors, c'est peut-être pas le quatrième match le plus hype, mais j'ai envie de faire un petit coucou à, tu disais, à Marc et Kevin, qui vont aller à Mexico. Et quelle chance on a. Enfin, te rends compte, on arrive même à envoyer des gens au Mexique.
Je suis un peu jaloux d'ailleurs, parce que Marc, il est déjà.
Ouais, mais.
On enregistre là.
Mais c'est vrai que Marc, il était déjà au Mexique, je crois, quoi qu'il arrive. Et puis, Kevin, il vient d'un peu moins loin que la France. Donc pour lui c'est faisable, mais c'est vrai que bon c'est un peu comme Munich, comme Londres, ces matchs à l'extérieur c'est toujours intéressant. En plus pour le coup des équipes de l'Ouest des États-Unis et Arizona qui est quand même pas si loin de la frontière, je pense qu'il va quand même y avoir une bonne ambiance. C'est des équipes bien choisies en fait pour un match à Mexico, je trouve. Là par contre on est sur un duel déséquilibré.
Ouais.
On est sur une équipe des Cards qui est en... Ils ont gagné un match, c'est bien, ils sont pas morts, mais ça reste l'équipe la plus mal coachée de la ligue et j'ai du mal à croire qu'ils arrivent à dominer une équipe des Niners qui est en train de devenir celle qu'on attend, c'est-à-dire une défense implacable, une attaque qui redevient efficace, une équipe solide qui va gagner match après match, qui à mon avis va gagner cette division et qui sera un poison playoff.
Donc 49ers. Pour moi aussi. Et donc je le disais, Marc et Kevin. C'est la première fois qu'on sera accrédité pour un Monday Night Football aussi, du coup.
Ah oui.
On n'a pas encore fait de Monday Night Football TDA. Donc 49ers pour tout le monde. Je vais t'étonner avec le suivant.
Vas-y.
Attention. Je suis audacieux. Tu sais qu'il y a des gens, par exemple, ils ont regardé TF1, il y avait un truc avec des acteurs actuels qui remixaient les inconnus. Là. J'ai pas regardé, hein, ce qui paraissait. Voilà. Donc, des fois, il faut savoir risquer, tu vois, des choses. Mm-hmm. Donc, je vais proposer Broncos Raiders. Le Disaster Bowl.
D'accord.
Le Disaster Bowl, les deux déceptions dont on a parlé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que, encore une fois, si vous avez aimé la spéciale des inconnus sur TF1, par exemple, bah, c'est un match pour vous, tu vois. Il y a un truc, il y a un public. Il y a des gens qui ont tenté, qui ont été audacieux, qui ont souffert. Mais voilà. Non, mais en vrai, Nathaniel Hackett, Josh McDaniels. Les Raiders marquent 22 points par match, donc en théorie, ça passe. Même s'ils vont être ralentis encore par cette défense. Mais du coup, 17-18 points, ça passe. Donc, je vais dire les Raiders... Même si leur défense est nulle aussi, et pas bonne aussi, pas nulle, mais pas très bonne non plus. Bref, ça va être un désastre, mais du coup, je me dis, je sais pas, c'est la semaine, TF1 a lancé le thème du désastre avec leur remix des inconnus affreux, là. Donc, je tente. Je tente. Je prends les Raiders en plus.
D'accord. Très bien. En YOLO. Plus, tu prends les Raiders, quoi. D'accord.
Ouais, YOLO.
Donc vraiment, t'en as rien à faire, quoi.
Je m'inquiète un peu d'ailleurs, parce que les seuls autres qui prennent les Raiders, c'est Lucas et Raoul.
C'est Lucas et Raoul, ouais, ce qui en général est plutôt une mauvaise idée. Écoute, moi, je vais pas te mentir, hein, je l'avais 15e sur 14. Hein.
Je m'en doutais, c'est pour ça que je disais que c'était une surprise.
Non, mais voilà, en 14e, par principe, j'avais mis Valenciennes-Amiens, tu vois. Pour te dire que même ça, j'avais plus envie de regarder. Non, je troll. En vrai, c'est deux équipes qui doivent sauver l'honneur. C'est un match qui aura une grosse influence sur le classement de la draft. Moi, j'ai envie de prendre les Broncos parce que je pense que quand même, ils sont plus talentueux. Au sens où, je veux dire, ils ont une attaque et une défense, malgré tout, surtout une défense, certes, mais une attaque qui, sur un match, peut tourner. Alors que vraiment, les Raiders, ils n'ont pas de défense, ça, on le sait déjà. Et en plus, une attaque est perdue. Carr qui commence à pleurer en conférence de presse et tout. Les mecs, ils sont au bout du rouleau, quoi. Moi, je mise Broncos, quand même.
Mais c'est pour ça que je t'ai dit, ça se regarde comme une spéciale des inconnus ou un fait d'entrer l'accusé. Vous vous sentirez peut-être même un peu coupable d'avoir toute cette souffrance ou ces trucs horribles devant vous, mais des fois, il faut y aller, quoi. Qu'est-ce que tu prends derrière ?
Match de division, match d'AFC décisif pour la course au play-off, Patriots-Jets. Oh, quand même ! T'es dur ! Je te sens...
Non, je l'avais pas mal plus bas, parce que je veux bien... Ouais, j'aime bien voir les Jets, parce qu'ils défendent bien. J'ai pas super envie de voir l'attaque des Patriots en ce moment.
Bah écoute, ces Patriots, ils sont dans un bilan positif, ils sont dans la course au play-off. Ils ont un plan de jeu qui est simple, hein, qui est basé sur une défense, un jeu de course et un jeu de passe assez simplifié. Ça a marché contre les Jets, hein, puisque rappelons qu'il y a seulement trois semaines peut-être avec la bye.
Ils les ont battus il y a deux semaines.
Ils les ont battus. Donc ça va être un match revanche pour les Jets. Moi, je sais pas. Je suis toujours intrigué par ces matchs de la FCS. En fait, j'ai l'impression que Bill, ça fait 25 ans qu'il bat les Jets et qu'il sait pas perdre, en fait, contre les Jets. Et donc, même si les Jets sont une meilleure équipe, même s'ils sont plus talentueux, j'ai l'impression que les Patriots ont trouvé un moyen de gagner, tu vois.
Donc, écoute, j'avais pris les Patriots justement sur ces arguments-là il y a deux, trois semaines, là. Et donc, ça m'avait réussi. Mais je vais quand même prendre les Jets cette fois. Ça va faire un partout. Ceci étant dit, les Patriots sont premiers sur le taux de pression sur le quarterback adverse.
Et on a vu à quel point les stats de Wilson sont différentes quand il est sous pression et quand il ne l'est pas.
Oui, mais les Jets sont quatrième sur les yards autorisés, quatrième sur les interceptions, quatrième sur le taux de pression sur le quarterback. Et Mac Jones, c'est quand même pas beaucoup plus incroyable en ce moment.
Ah bah, je promets pas un 35-32.
Non, je prends les Jets. Tu prends qui ?
Patriots.
Les Colts contre les Eagles pour moi derrière. Vengeance après la défaite pour Philadelphie. La seconde de Jeff Saturday. Ils ont joué comme il fallait. Là, ça va être beaucoup plus dur, évidemment. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Je vais dire, j'ai eu beaucoup de mal à classer les matchs cette semaine. Ils ont tous un truc plus ou moins intéressant. Il n'y en a aucun qui me rendait fou de joie. Mais ils ont tous plus ou moins un truc intéressant. Jeff Saturday, ça devient une curiosité. Évidemment, je pronostique les Eagles parce qu'ils ont beaucoup plus d'armes. Mais voilà, j'ai envie de voir les Eagles surprendre, j'ai envie de voir comment les Colts vont, donc les Eagles pour moi.
Oui, bah de toute façon, les Eagles, il fallait bien perdre un match à un moment, ils ont pas réussi à dominer l'horloge, ils ont perdu les paires de balles, ils perdent le match, c'est logique. Normalement, ils devraient se reprendre, même si l'absence d'Alas Goddard va faire mal. Du côté des Colts, quand même, la petite surprise, ça a été le retour de Matt Ryan, ce qui, pour moi, est plutôt une bonne nouvelle, parce que je vois pas dans quel monde on pouvait considérer qu'Ellinger était un meilleur quarterback que Ryan. Même si Ryan est probablement fini, en tout cas à l'échelle d'une saison, pas forcément d'un match, mais d'une saison. Oui, je pense que les Eagles devraient l'emporter. Là, vraiment, s'ils encaissent une deuxième défaite d'affilée, ça va commencer à regarder derrière, parce que les Giants et les Cowboys ne lâchent pas. Donc, normalement, les Eagles devraient faire le travail. Moi, je vais prendre Falcons-Bears. Parce qu'aujourd'hui, les Bears, c'est top 5 des équipes les plus fun de la Ligue ces dernières semaines. Qu'on le veuille ou non, hein, mais c'est quand même top 5 des équipes vraiment fun. Justin Fields est en train de sauver ma fantasy. Je l'ai récupéré en 6e semaine, ce petit Justin Fields. J'ai bien fait. Là, clairement, les Bears sont métamorphosés. Ils commencent à trouver un groove en attaque. Alors, il y a des limitations en défense, certes. En face, les Falcons, c'est limité aussi, mais ça peut être fun, comme ça peut être une purge, on l'a vu jeudi. Mais bon, les matchs du jeudi, j'ai tendance à pas juger les équipes là-dessus. Je pense qu'il y a un potentiel match serré, un peu comme il y a eu le Bears Lions, tu vois. Ce genre de petit match plutôt sympa et qui peut partir dans les deux sens.
Je l'avais plutôt pas mal aussi. 200 yards par match, ouais, pour les Bears au sol, c'est dingue. Hein. C'est de loin. Je crois qu'ils mettent 30 yards ou 40 yards à la deuxième attaque au sol. Et c'est devenu hyper fun. Donc, t'as dit les Bears du coup ?
Moi, je vais aller sur les Bears. Ouais.
Ouais, je vais sur les Bears aussi. Les Ravens contre les Panthers derrière. Allez. Bon, c'est là, encore une fois, on est dans un ventre mou. Ils ont tous des arguments. C'est parce que ça va courir. Hein, Dont Foreman, Lamar Jackson, tout ça, tout ça. Baker Mayfield est titulaire, ça peut être drôle, mais pas en bien. Bon, Carolina est quand même plutôt coincée, hein, en théorie. Il y a 3 victoires de suite pour Baltimore. J'ai envie de les voir enchaîner sur un match solide. Là, il y a l'occasion de faire un match solide. Ça doit être large, ça doit être convaincant. Et c'est ce que je veux voir de Baltimore. Il n'y a pas eu beaucoup d'équipes qui ont fait des matchs très maîtrisés cette année. J'aimerais bien voir Baltimore en faire un pour confirmer un peu ça. Donc, les Ravens pour moi.
Oui, bah, pour à peu près les mêmes raisons, les Ravens. Sachant que c'est Baker Mayfield, hein, du côté des Panthers. Donc, il est habitué déjà à perdre contre les Ravens. Non, je pense que, comme tu dis, on a envie de voir plus de constance de cette équipe, quoi. On sait qu'il y a du talent, mais on a vu des matchs où ils menaient largement, ils n'ont pas réussi à revenir, d'autres matchs où ils ont un peu perdu tout seul. Enfin, on veut plus de constance parce que c'est clairement une équipe pour la gratter en AFC, mais il va falloir un petit peu que la sauce prenne. Moi, derrière, je vais te prendre Giants-Lions. Parce que je suis de plus en plus intrigué par cette équipe des Giants. Écoute, on a dit la semaine dernière, les Giants, pour la première fois de la saison, ils sont favoris. Comment est-ce qu'ils vont se comporter, etc. Bah écoute, ils se sont comportés en patron. Hein. C'était pas le plus beau match de l'histoire. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné assez tranquillement, je dirais, assez en maîtrise. Et c'est ce qu'il faut faire. Donc bravo à eux. Et là encore, les Lions, bah, c'est le genre de match, tu dois dominer. Et là, globalement, tu es déjà en train de quasiment valider ta place en playoff en NFC, ce qui est quand même absolument inimaginable avant le début de la saison. Donc, c'est vraiment... c'est pas le moment de lâcher, quoi. Donc là, il faut du Saquon, il faut du Daniel Jones qui fait ce qu'il peut avec 3 bouts de bois et 2 cailloux. Et il faut continuer à jouer comme ça. Parce que les Lions... Potentiel explosif beaucoup plus élevé que les Texans, tu vois. Les Lions, sur un gros soir, Amon-Ra St. Brown, il te met 150 yards et 3 touchdowns sur le dos. Jamal Williams, mais il te met 100 yards, tu vois. Et
pour moi, c'est la question de ce match. C'est qu'est-ce qui se passe si New York a 10 points de retard ?
Je pense qu'ils ont perdu, s'ils ont 10 points de retard. Il faut justement pas qu'ils aient 10 points de retard.
Ça me semble aussi être toute l'intrigue de ce match-là. Je prends les Giants quand même.
Ouais, Giants aussi.
Il nous reste Bills, Browns, Texans, Commanders, Saints, Rams, Steelers, Bengals. Tiens, allez.
Dis-nous.
Steelers, Bengals. Allez, ouais. Steelers, Bengals. Parce que Joe Burrow, qui revient d'une semaine de repos contre TJ Watt et la défense de Pittsburgh. Et que, si je ne dis pas de bêtises, ça a été une des défaites surprises, non des... Oui, c'est ça. Les Bengals ont perdu en ouverture de la saison contre les Steelers. 23-10. Donc, ça me tente. Ça me tente bien. Je vais prendre les Bengals, mais c'est une opposition attaque-défense. Autant l'opposition entre l'attaque de Pittsburgh et encore, s'ils courent beaucoup comme ils l'ont fait la semaine dernière, pourquoi pas, une folie. Mais ouais, c'est un match qui m'intéresse. Je vais dire Bengals.
Oui, c'était 23-20, pas 23-10. C'était le fameux 23-20, extra point manqué. Le feed goal manqué, etc. Écoute, cette équipe des Steelers, bon an, mal an, elle trouve un certain équilibre. Le retour de Watt a été quand même décisif. Tu vois quand même, un leader, ça change tout. Hein. Tous les mecs autour, ils sont meilleurs quand il est là. Il y a un moment, c'est pas un hasard. Hein, donc, cette équipe des Steelers, c'est le moment où elle n'est pas bonne à prendre, parce que Pickett commence à trouver un rythme, parce que cette défense est là. Donc attention au match piège, les Bengals doivent le gagner, ils doivent pas laisser passer ces matchs-là, parce que sinon ils vont se compliquer la vie aussi. Je suis d'accord que c'est un très beau match, et tu vois, avec le recul, j'aurais dû le mettre plus haut.
Ouais, non, pareil, je l'avais plus bas, et puis là, je viens de le remonter, tu vois, en le voyant. Je me dis, c'est pas déconnant, quoi, de le remonter. Donc, ouais, ça me va. Il t'en reste 3.
Bills, Browns. Je prends la meilleure équipe des 6. Parce que, bon, même si ils ont fait un peu de la merde et qu'ils ont perdu ce Vikings, les Bills, ça reste une top 3 équipe de cette ligue. Il faut pas se mentir. Sauf qu'il faudrait arrêter de faire les cons. Et il faudrait commencer à gagner des matchs. Parce que 6-3, c'est presque une insulte au talent de cet effectif. Ils ne sont pas aidés par les blessures. Hein, parce que Tre'Davious White n'est toujours pas là. Parce que Poyer est blessé. Parce que Hyde est blessé. Parce que Miano est blessé. Enfin, ils ont un sacré nombre de blessures en défense. C'est vrai. Ouais. Mais bon, normalement, avec l'effectif que tu as, tu dois rouler sur les Browns. Enfin, je veux dire, Nick Chubb, ok, mais enfin... Nick Chubb tout seul face à l'armada des Bills, normalement les Bills, ils doivent vraiment les écraser en disant « Ok, on a été un peu inconstant ces dernières semaines, on a perdu Sojet et tout, voilà, on s'est remis à tête à endroit, on est de retour, on vient vous écraser. » C'est ça qu'ils doivent faire les Bills. Et j'ai du mal à croire au match piège, mais bon, je suis pas non plus... tu me dis que les Browns ont provoqué 3 paires de balles et ont gagné le match, je tombe pas de ma chaise non plus. Mais pour moi, c'est le match où les Bills doivent gagner, quoi.
Et les Browns prennent 26 points par match. Il n'y a que les Lions qui font pire. Donc normalement, les Bills doivent gagner, en effet. Ils doivent écraser ça. Donc Bills, pour moi également, il reste... ça va être la disgrâce totale. Hein, mais je vais laisser le champion en titre tout au fond. Et je vais prendre Texans Commanders. Parce qu'il y a une dynamique du côté des Commanders. J'espère qu'ils ne vont pas faire l'erreur de remettre Carson Wentz sur le terrain cette semaine.
Jamais. Il ne reviendra pas de la saison.
Voilà, j'espère. Mais voilà, typiquement, parce que c'est typiquement le match où les Commanders vont ruiner tous les espoirs qu'on avait mis en eux, tu sais, depuis quelques semaines, en mode ah, ils ont construit un petit truc, Tyler Heinicke. Parce qu'ils sont quand même à 4 victoires en 5 matchs. Hein, et ils ont perdu que contre les Vikings de 3 points. Donc il y a un petit truc. Il y a une défense qui va mieux, il y a une attaque qui est quand même solidaire autour d'Heinicke, et en face, il y a des Texans qui ont quand même, c'est le néant offensivement, voilà, donc je vais prendre les Commanders, en espérant qu'ils ne ruinent pas tout.
Une défense qui va mieux, et qui va récupérer Chase Young.
Oui, c'est pas encore sûr, hein. Il est pas encore
J'ai vu des tweets hier où il disait que là quand même,
ouais, ça s'approche vraiment.
Enfin, la tendance était qu'il serait activé dans les prochains jours. Mais il est dans la fenêtre des 21 jours là, voilà, où il doit être actif.
Très bien.
Non, je pense Commanders. Commanders, il n'y a pas trop de raison.
Et il te reste donc une pépite.
Il me reste donc Saints Rams. Et alors là, monsieur, j'ai une question pour toi. Je vais commencer cette preview par une question. C'est que j'ai vu les pronostics. J'ai envie de te demander pourquoi.
Alors attends,
parce que tu as mis les Rams.
Des fois, je vais très vite. Mais il n'y a pas que moi, il y a Greg.
Non, vous êtes 4 à avoir mis les Rams.
Et il y a Lucas.
Écoute, les Rams, ils sont en état de mort cérébrale.
Oui, alors par contre, t'as vu le dernier match des Saints?
Oui, j'ai vu le dernier match des Saints.
Attends, parce que disons que c'est pas quand même une. C'est une affiche qui ne fait pas rêver au sens où il n'y en a aucune des deux qui est bien en point, quoi. Les deux sont en galère, quoi.
Certes, et j'aimerais que les Saints perdent parce que. Le pic va aux Eagles, mais là quand même les Rams ne vivaient que par Cooper Kupp, quoi, et même ça on leur enlève maintenant,
c'est vrai,
ça va être dur, hein. Et je crois qu'ils ont encore perdu 2 linemen, ils en sont à 11 linemen blessés cette saison, ils ont carrément perdu,
c'est vrai que ça va être dur,
les titulaires et les remplaçants, ils vont faire jouer les remplaçants des remplaçants, alors quand tu vois déjà la gueule des titulaires.
Et on enregistre mercredi, Matthew Stafford n'est pas sorti du protocole commotion.
Pas sorti du protocole commotion. Non, moi je pense que là, les Rams, il y a un potentiel 0 point. Donc évidemment, ils vont en mettre 35. Mais je pense qu'il y a face à la défense des Saints, il y a un potentiel 0 point qui est assez
pas
fort.
Pas ça, tu allais me faire changer d'avis et puis après tu me dis...
Non, moi je pense que les Saints, ils gagnent 10-0, 13-0, tu vois, le match sale. Mais ils gagnent. Et malgré tout, ok, ils ont loupé la dernière semaine, mais enfin, ils ont quand même des playmakers en attaque. Eux, ils peuvent faire des gros plays. ils peuvent avoir une bonne semaine. On les a vus faire des matchs à 30 points. Non, je...
Très bien, tu m'as convaincu, je change. Je prends les Saints.
Ah, voilà. Tu me remercieras quand les Rams auront gagné de 20 points.
Exactement. Tu prends les Saints aussi, donc.
Oui, bien sûr.
Au repos, Dolphins, Seahawks, Buccaneers et Jaguars. Pour le programme complet dans l'ordre, ça donne le match du jeudi Packers-Titans. Dimanche à 19h, Falcons-Bears. L'équipe en premier au soir, hein, je vous rappelle. Donc Falcons-Bears, Ravens-Panthers, Bills-Browns, Texans-Commanders, Colts-Eagles, Patriots-Jets, Saints-Rams, Giants-Lions. À 22h05, Broncos-Raiders. 22h25, Steelers-Bengals, Vikings-Cowboys, l'affiche de la semaine. 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi, Chargers-Chiefs. Et le Monday Night Football, ce sera Cardinals-49ers à Mexico. On l'a dit, on aura deux envoyés spéciaux sur place. Donc si vous suivez nos réseaux sociaux, n'hésitez pas, il devrait y avoir du contenu. On termine avec les codes de la semaine. Je vois que Victor a pris son téléphone. Je suppose qu'il regarde les cotes.
Oui, exactement. J'ai Bears à 2,26.
Je l'ai mis dans ma vidéo Unibet de la semaine. Alors, quand je dis la vidéo Unibet de la semaine, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sur nos réseaux sociaux. Je mets une vidéo de 2 minutes toutes les semaines, montée par Xavier, que je remercie beaucoup. Et en effet, les Bears contre les Falcons à plus de 2, ça me va totalement. Ça me va totalement.
Et si tu crois à tes Jets, ils sont à 2,29.
Pour moi, c'est un match un peu pile ou face, quoi.
Non, mais 2,29, c'est pas inintéressant. Hein.
Les Lions à 2,22, si tu penses qu'ils ont un coup de chaud contre les Giants.
Ouais. 97% des gens ont voté pour les Giants. Je trouve ça hallucinant. Ok. Très bien.
Oui, ça me paraît beaucoup. En effet, 97% de paris sur les
Giants. Je veux dire, les Giants sont favoris. Hein. Attention qu'on se trompe pas. Bon, 97%.
Le Vikings Cowboys, il n'est pas facile. T'as les Vikings qui sont à 1,90 si tu y crois.
Ouais, moi j'ai plutôt misé Cowboys. Donc,
C'est. Alors, Bears Jets, qu'est-ce qu'on prend en 3? Les Rams sont à 2,45, mais tu m'as dit que tu croyais 0 et tu m'as convaincu, donc non. Les Commanders sont à 1,52. Contre Houston.
Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Ouais.
Au-dessus d'un 50, t'es pas mal. Hein.
Ouais.
Donc, Bears 2,26 contre les Falcons, Jets 2,29 contre les Patriots et Commanders 1,52 contre les Texans. Vous pouvez évidemment les jouer séparément et vous pouvez jouer 5€ en combiné, ça donne 39,33€ de gain potentiel. YOLO, soyons fous. YOLO. Voilà, 4,80 les Panthers contre les Ravens. En effet, c'est du YOLO.
Là, tu pars loin quand même.
Les Lions qui tapent les Giants,
ouais.
2,22, petit coup de chaud. Les Vikings à 1,90, on peut les mettre dans le YOLO.
Ok.
On y croit. Et quoi, les Raiders à 2,11?
Les Chargers qui font leur upset annuel contre les Chiefs.
Oh, moi, j'y crois pas du tout à celui-là. Bon, après, je sais que c'est du YOLO, mais.
Les Rams de 45.
J'allais dire l'orgueil du champion. L'orgueil du champion pour le YOLO. Les Rams à 2,45, les Vikings à 1,90 et les Lions à 2,22. On rajoute ça aux trois précédents. Ça fait 5€ misé, 436,58€ de gain potentiel. On n'est pas sur des YOLO, méga YOLO. Hein, comme ça.
Bah, faut dire, il y a quasiment. Enfin, la NFL est tellement paritaire cette année que 80% des cotes, elles ont 1,80. Donc.
C'est vrai, les cotes sont très équilibrées. Ceci étant dit, cette semaine, tu as quand même Browns à 3,62, Panthers à 4,80, 2,98 pour les Chargers, 3,42 pour les Cardinals.
Ouais, mais les Chargers, t'as pas voulu.
Non, allez, je sais pas. N'oubliez pas qu'évidemment, jouer comporte des risques, endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, vous pouvez appeler le 09 74 75 13 13. Merci beaucoup, Victor.
Mais merci Alain, merci à tous.
Gros programme. Vous avez parlé de quoi? J'ai vu un fichier avec marqué juste cornerback dans le.
Exactement.
Pour la draft.
Nous allons parler d'un gros et d'un petit cornerback. Donc il y en aura pour tout le monde. Très bien. Voilà.
Très bien. Donc ça, ce sera dans l'émission draft de vendredi. Dans la rétro de samedi, c'est déjà prêt. Et je ne dis qu'une chose. J'ai retrouvé cette émission. Je m'étais dit, les gens aiment bien les drafts, tu vois, les direct drafts. Donc, une semaine sur deux, grosso modo, je mets un replay de top 10 draft. Et il y a ce replay où, à un moment, j'ai cette expression à l'antenne où je dis, Les gars, apparemment, il y a une histoire de vidéo avec Larry Tunsil qui fume un bong dans un masque à gaz. Voilà, et c'est le premier tour de la draft 2016 qui est assez légendaire, donc il sera en ligne samedi matin, où Larry Tunsil avait animé toute notre nuit. Je peux vous dire qu'en une heure et demie, parce qu'on met le top 10 seulement en ligne, hein, en une heure et demie, on découvre la vidéo, on essaie de trouver des explications, et il s'excuse. Tout va très vite ce soir-là. En fait, il a eu le temps de s'excuser avant le 10e choix de la draft. Voilà. Et Larry Tunsil, donc, qui avait animé tout ça. Mais
il est pris en 12 à la fin, non, je crois.
13. Ouais, il est 13e. Mais du coup, en plus de Larry Tunsil, évidemment, je vous rappelle que c'est la draft de Carson Wentz et Jared Goff, qui est numéro 1 pour les Rams. Donc, on parle beaucoup de Jared Goff et de Jeff Fisher hein, dans cette émission rétro. Donc, n'hésitez pas à jeter une oreille. Le reste, ce sera évidemment le fauteuil à 17h30. On se retrouve et ce sera avec Marco en direct de Mexico, j'espère que je le dis bien, mais donc en direct de Mexico City pour faire un petit point un petit peu sur ce qui se passe là-bas, l'ambiance d'avant-match, la ville, le stade, etc. Et puis avec Marco, on parlera aussi quand même de l'actualité de cette semaine, c'est-à-dire la NFL qui aurait la France dans le viseur. On développera un petit peu là-dessus et puis on se fera un petit peu du fantasy organisateur, c'est-à-dire qu'on essaiera de s'organiser le match idéal, tu vois, où est-ce qu'on le mettrait, avec quelles équipes, dans quel stade, dans quelle ville, etc. Évidemment, là, ce sera plus du fantasme, mais on va se marrer un petit peu. C'est comme ça que se termine l'épisode 540 du podcast Touch en Actu. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Évidemment, n'hésitez pas à laisser des notes, des commentaires, des étoiles, tout ça, tout ça. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Il y a des nouveaux sous-verts années 90 qui sont arrivés. Pour nous suivre, les réseaux sociaux, vous avez l'habitude. Sur le site tdactu.com, il y a tous les liens. De toute façon, merci beaucoup, Victor. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast TD Actu. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.